Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
Ask, what goes what? Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Life de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent c'est pour parler, bienvenue sur le podcast.
And the
cette édition du podcast Laurent s'écoute parler, saison 2, vous est présentée grâce à nos fiers commanditaires chez Options Notaires et Farley Avocat. Grâce à eux, Laurent n'est pas tout seul à s'écouter parler. Vas-y Laurent, on t'écoute.
En direct de ma cuisine à Rosemont, Montréal. Et là, je me suis gâté, j'ai installé la cuisine à l'envers. Et j'ai vraiment l'impression de vivre une nouvelle vie présentement. On est samedi soir, je sais, une nouvelle formule où j'enregistre en soirée quand ma voix sonne plus comme un crooner. Parce que il y a toute la journée derrière où je me suis époumonné. Présentement, pour vous annoncer, je reviens du parc. J'étais allé au parc avec trois de mes amis à qui on ne se voit pas souvent avec la COVID. On s'est installé à 4 mètres de distance avec nos masques, nos gants, une bière, pas deux. Puis là, on a jasé. Vraiment, c'est l'équipe, ce que j'appelle l'équipe de frappe pour le podcast. C'est ceux qui écoutent le podcast, me donnent des petits trucs après. Tu devrais changer ça, tu devrais changer ça, tu devrais faire ça. J'ai mon ami Frédéric Gagnon qui était là. Lui, son métier, c'est... il forme des gens qui sont appelés à mener des entrevues. Fait qu'il a écouté mon entrevue avec Mathieu Boulay, puis là, il m'arrive avec les petites consignes. Il me dit, tu devrais faire ça, ça. Des fois, t'as posé une question avec la réponse dedans. Fait que c'est toujours très intéressant. J'aimerais souligner la présence de Maxime Saillé-Cloutier, l'homme qui a fait de moi un parrain. Quelqu'un avec des responsabilités qui était aussi présent. Et Gabriel Verrier, qui est l'athlète de notre groupe d'amis. Gab, c'est le genre de gars, si tu demandes, on va-tu monter une montagne après-midi? Il va te répondre, pourquoi qu'on n'en monte pas deux? Une, c'est un peu facile. Une, c'est la facilité. Une, c'est le peuple. Deux, là, on commence à parler. Fait que j'aimerais les remercier d'être dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai écouté Arthur, de se faire l'histoire familiale. Aujourd'hui, j'ai écouté Arthur Béterbiev à RDS. J'étais content. Puis j'avais dit aux gens d'écouter la demi-finale. Et ce fut un excellent gala. On va faire le tour aussi. Il y a eu un gala à Québec cette semaine. Ça va faire partie du podcast numéro 66 en mémoire de Mario Lemieux. J'aimerais vous parler en mémoire. Il n'est pas mort, là, mais... On peut saluer la mémoire de quelqu'un qui est encore vivant. C'est permis. Mario Lemieux, un jour, il a compté 5 buts de 5 manières différentes. À 5 contre 5, à 5 contre 4, à 4 contre 5, dans un filet désert. Et il avait compté sur une mise en jeu en swingant le bâton pendant que la rondelle tombait. C'était magnifique. D'ailleurs, le Canadien ne gagne plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Poulain Tremblay, le podcast, allez voir ça. On a reçu deux faces le Gémeaux. Vraiment, là, une bonne entrevue, tu sais, c'est un gars qui vient du monde du rap, mais qui capote sur la boxe. On a parlé, c'était très intéressant. On va bien sûr revenir sur le gala de Québec. On va parler du combat de Arthur Béterbiev. On va faire un détour avec ce qui est arrivé dans le combat de Lawrence O'Cauley, qui est devenu champion du monde. On va parler de ce qui est arrivé au Québec. Quand même une semaine avec des petites nouvelles, là. Rien pour c'est se garrocher en bas du deuxième étage. On va aussi parler à Frédéric Gagnon, notre expert international qui nous a préparé. Et là, je l'ai vu aujourd'hui. Là, ce gars-là, c'est une machine. Il est arrivé, là. Il me dit, hey, Laurent, j'ai préparé une petite chronique. Il y a à peu près 35 feuilles recto verso d'informations, meilleures les unes que les autres. Petit problème, j'ai oublié d'y amener le micro qu'on avait trouvé pour qu'il sonne comme une tonne de briques. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Allez, écoutez, je vous ai fait une petite surprise. On a reçu cette semaine Mathieu Boulay pour une entrevue. Mathieu Boulay, qui est un gars de... C'est Mathieu Boulay, c'est un gars à l'écrit que vous devriez tous entendre. Tu sais, c'est ça le problème. Mathieu, tu pourrais commencer à lire tes chroniques parce qu'on aime ça t'entendre, mais on aime ça te lire aussi. Pourquoi pas les deux en même temps? Donc, ça fait le tour un peu des nouvelles de la semaine, pas pour me vanter, là. Mais j'étais en vacances. Puis je voulais aussi vous dire, je voulais pas vous en parler la semaine 1, dû à des problèmes, ben pas des problèmes de santé, mais mon docteur m'a dit, m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a dit, tu sais quoi l'IMC? Là j'ai dit oui. Elle m'a dit, t'es beaucoup trop gras, fais attention. Fait que j'ai quasiment eu des trémolos. Là j'ai atteint un poids là, qui est extrême. Je commence à avoir de la misère à m'habiller comme tout le monde chez l'abbé. Fait que je veux juste vous annoncer que ça fait 10 jours que je suis à la diète. Tout ça sous les bons conseils de ma préparatrice physique, Martine Vallière-Bisson, qui s'occupe. Ça, c'est la meilleure chose qui peut m'arriver. Martine, c'est la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie, OK? Elle s'occupe de mon mental, tu sais, elle me donne des petits conseils, elle m'a expliqué que, tu sais, manger comme un cochon, c'est le fun pendant que tu manges, mais après t'es ballonné, après tu manques d'énergie, après tu te ramasses à 274 livres avec du diabète puis de la haute pression. Puis là, elle a réussi, avec ses bons systèmes. Dans le fond, c'est des choses qu'on sait, là, mais que j'avais oubliées. Puis en me les rappelant, mais avec un ton qui n'était pas un ton... On n'était pas dans le jugement, on n'est pas dans la condamnation avec Martine. Puis là, ça m'a aidé. Ça m'a comme fait réaliser des choses qui sont simples dans le fond, mais de les réentendre, ça m'a aidé. Et là, je suis un nouvel homme. Mes plans, c'est de passer de 2,74 à 174 avec les abdos arrachés sur le corps puis faire des photos en chest sur Facebook comme Antonin Descarrières. Voici ma stratégie. Ben, tout ça, la vraie réalité, c'est que je veux être plus en santé, mais c'est sûr que si je suis en shape, là, je mets des photos en chest sur Facebook. Là, je veux dire, à quoi ça sert d'être en shape si c'est pas pour l'exhiber sur les médias sociaux? Alors, je vous annonce que je suis à la diète. Je retourne au gym le 26 et je ferai ce qu'il faut pour vivre un autre 60 ans pour votre grand plaisir. Les auditeurs. C'est une fois, c'est un gars, il s'en va à l'hôpital. Le docteur, il dit, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour toi. Fait que le gars, il dit, ça commence par la mauvaise. Il faut te couper deux pieds. Il dit, c'est quoi la bonne? Laisse t'essuyer dans l'entrée, c'est ma pointure.
Oh mon Dieu!
Ça, c'est un autre petit secret que je ne vous avais pas encore mentionné. J'ai l'intention d'écrire un one-man show, mais pas une affaire d'une heure et demie. Là. Peut-être juste un petit 10 à 12 minutes, puis le donner sur YouTube. Au début, je voulais faire juste des jokes de boxe, mais c'est pas très grand public. Je prépare un numéro d'humour, et non, je vais pas m'inscrire à l'école de l'humour, puis payer, mettons, je sais pas, moi, 34 000$ pour 3 ans. J'ai pas le temps, puis j'ai pas les moyens. Mais je vous prépare un spectacle d'humour qui va durer à peu près 12 minutes. Ça commence par « Êtes-vous en forme? » Un peu plus fort au balcon, « Êtes-vous en forme? » Puis ça va être ça. Ça, c'est le début de mon spectacle. Après ça, il va y avoir des jokes, des affaires de la vie de tous les jours. Ben, vous allez voir, là, ça va durer 12 minutes. Attendez. Donc, on va revenir à la boxe, mais... Je fais des annonces publiques. Cette semaine, le 16 mars dernier, il y a eu un gala à l'Hôtel Plaza à Québec City. Québec, Canada. En premier combat de la soirée, on a vu Francis Charbonneau qui a affronté Alexandre Roberge qui avait les culottes à terre. Ça a fait un petit scandale parce qu'ils ont permis un combat de 6 rondes. Est-ce que le scandale avait lieu d'être? Oui. Okay. Alexandre Roberge, ben c'est pas de ta faute, là, mon beau Alex. Je t'aime bien. C'est la régie. Comment la régie peut accepter que Alexandre Roberge, avec 30 combats amateurs, à son âge avancé, avec un physique qui visiblement n'était pas affûté comparativement à comment je le connais, Alex, sous la COVID, a été dur pour tout le monde, se battre sur 6 rondes. Okay? Faut comprendre que Arthur Ziadinov, Arthur Beterbiev, Nurzat Zabirov, Batir Jukanbayev, Arslanbek Makhmudov à 5, ils ont à peu près 1500 combats amateurs. Il y a eu de la part des promoteurs des demandes pour ne pas faire le combat de 4 rondes, pour permettre d'aller chercher des meilleurs adversaires. Ça leur a été refusé en disant, nous, à la régie, vous allez respecter nos règles et vous allez faire les 4 rondes, même si votre gars s'appelle Vasily Lomachenko, Floyd Mayweather ou Mohamed Ali, OK? Il y a seulement Steve Bossé qui peut faire des 10 rondes parce qu'il vient du monde du MMA. Ça encore là, c'est un peu étrange. Mais on lui permet de faire 6 rondes, on augmente sa bourse, puis il finit à l'urgence parce qu'il est épuisé. Okay. Bon, tant mieux, personne n'est blessé pour un combat revanche. Pour ce qui est du spectacle, il y a un proverbe qui dit « Si deux boxeurs égaux s'affrontent, c'est bon pour le spectacle. » Donc si on avait deux gars d'un niveau plus faible, mais qui sont au même niveau, qui sont venus pour se battre, et au final, on a eu un excellent spectacle. Le deuxième combat de la soirée, puis ça, Vincent Morin, le matchmaker, est un peu chanceux, parce que lors du premier combat, Volny, il gèle Jenks Trotter à la fin du premier round. Là, on a eu 5 rondes, on a eu un bon combat. Volny a l'air prêt pour son éventuel combat contre Patrick Wojcicki pour un rôle d'aspirant numéro 1 à la ceinture appartenant à Gennady Golovkin. Et tenez-vous bien, plus ça va être long, plus sont les chances que Golovkin abandonne la ceinture au lieu d'affronter un gars comme Volny, qui n'est pas très connu pour lui. Et mieux ça va être pour Volny, qui dans le fond va pouvoir collecter un titre peut-être par la malle, tu sais. L'important, c'est pas comment tu le gagnes, c'est de le gagner. Ça, c'est un proverbe. Après ça, il y a eu un combat entre Alexis Barrière et Colin Sangster. Et là, j'ai trouvé Barrière vraiment bon. Pour un gars de 236 livres, il se déplaçait avec, comme si de rien n'était, avec une grande agilité, gaucher, frappe fort, paraît bien. Alexis Barrière et le total, sans dire le total package, c'est pas le prochain Tyson Fury, là, mais on va faire, on va vraiment faire une belle épopée avec Alexis Barrière. On va avoir du fun, puis dépendamment comment les choses vont arriver, on peut rêver qu'il obtienne un assez bon niveau. Tu sais, je pense pas d'être champion du monde, mais c'est bien fait là, pour être top 15 d'une des 4 associations parce que il y a beaucoup d'associations. Puis là, finalement, tu sais, affronter quelqu'un un jour, puis il arrivera ce qu'il gagnera ou il perdra. Ça, tu sais, je suis pas capable de vous le dire. Là. Les poids lourds, c'est bien compliqué. Pour vrai, moi, je sais même pas si Makhmudov il va péter son top 15 quand il va l'affronter, tu sais, pour arriver contre un top 15, faire fermer les deux yeux parce qu'on n'a jamais vu ce qu'il vaut vraiment défensivement. Puis en World Series, c'est déjà fait poivrer, là, fait à suivre. Sébastien Bouchard, pour un gars qui n'a pas boxé depuis l'éternité à peu près, a très bien paru contre Mario Pérez, Unanimous Decision. Bouchard, comme je vous ai dit la semaine passée, j'espère qu'on va le prendre puis qu'on va l'amener au bout de ses rêves. T'sais. Bouchard, Un autre qui sera peut-être pas champion du monde, mais sur la scène nord-américaine, pourrait faire un petit bout de chemin, se ramasser une belle fiche, faire des dollars, peut-être même une présence en pay-per-view contre un bon boxeur, qui pourrait peut-être servir de tremplin à un jeune, mais tu sais, aller chercher un montant, là, faire une petite montée, et en finale, Oscar Rivas a battu Silvera Louis, qui avait l'air de reculon, comme le vieux proverbe, il avait l'air à cheval de reculon dans une chaloupe. C'est ce que j'ai pensé en voyant Silvera Louis boxer. Somme toute, une soirée correcte, un gala qui ne passera pas à l'histoire, et beaucoup de gens, par exemple, sur Facebook, qui se plaignaient d'avoir des vues obstruées, puis que c'était pas la fin du monde. Puis bravo pour ceux qui ont trop d'argent, puis qui sont capables de se payer des chambres à 1000$, puis des voyages à Québec, puis des restos, puis des bouteilles de cognac, en vue de ça, en v'là. Je vous considère vraiment chanceux d'être capable d'aller virer un 1500$, un mardi, c'est un gala au casino avec des boxeurs, c'est correct sans plus, là, je vous dirais. Une chance que vous savez pas que vous pouvez aller dans le sud deux semaines avec le même argent. Toutes dépenses payées. Non, mais en même temps, c'est correct, là, tu sais, c'est l'offre et la demande. Il y a des gens pour acheter les billets, puis c'est juste que moi, je trouve ça cher. Mais moi, je suis pauvre. Fait que, tu sais, il y a des gens riches qui peuvent facilement s'offrir ce genre de party. Pour ce qui est d'Oscar Rivas, on a appris aussi que Kevin Lerena, qui est un gars de 28 ans, surnommé de K.O. Kid, aspirant numéro 2 au titre des 225, c'est un gars qui habite à Johannesburg, à Gauteng, Afrique du Sud, qui a un promoteur qui a des dollars. Et là, il y a un autre promoteur dans la région du Moyen-Orient qui a dit « Si vous allez en appel d'offres, je vais gagner l'appel d'offres puis je vais amener le combat pour être le premier à avoir le championnat des 225 livres chez moi. » Donc, c'est quand même intéressant. Il y a quelqu'un qui a trop d'argent, qui aime la boxe, qui fait « Hey, je vais me payer un combat de championnat. Pourquoi pas l'Irena contre Rivas? » Puis ça va être le fun, tu sais. Fait que tant mieux, là, si Oscar peut aller toucher quelques millions pour affronter Kevin Lerena dans le coin du Moyen-Orient. Mais grand bien leur fasse, ça va faire un beau voyage. Et Brian Jennings, lui, aurait des problèmes contractuels avec son gérant. Fait que il est comme enlevé de l'équation. Fait que c'est... Ça fait le tour du 16 mars dernier, le gala à Québec.
Les roues sont des sataniques. C'est des envoyés de Satan.
Là, il y a un autre promoteur dans la région du Moyen-Orient qui a dit « Si vous allez en appel d'offres, je vais gagner l'appel d'offres puis je vais amener le combat pour être le premier à avoir le championnat des 225 livres chez moi. » Donc, c'est quand même intéressant. Il y a quelqu'un qui a trop d'argent, qui aime la boxe, qui fait hey, je vais me payer un combat de championnat. Pourquoi pas l'Irena contre Rivas? Puis ça va être le fun, tu sais. Fait que tant mieux, là. Si Oscar peut aller toucher quelques millions pour affronter Kevin Lerena dans le coin du Moyen-Orient, mais grand bien leur fasse, ça va faire un beau voyage. Et Brian Jennings, lui, aurait des problèmes contractuels avec son gérant. Fait que il est comme enlevé de l'équation. Fait que c'est. Ça fait le tour du 16 mars dernier, le gala à Québec.
Les roues sont des sataniques. C'est des envoyés de Satan.
Ils ont un plan A et un plan roue. Ils ont un plan roue.
Alors, pendant qu'on se parle, le but du Canadien, compté par le numéro 14, 74, Brandon Gallagher, son 12e assisté de Philippe Danault. On s'en va en prolongation. Ça, c'est un peu le parlage de la semaine. Là. Le Canadien qui n'est pas capable de compter à 3 contre 3. Donc, ne changez pas de poste. Je suis la prolongation pour vous. Aujourd'hui, il y avait un combat de notre ami Arthur Beterbiev qui a affronté. Je suis perdu là dans mes. Ça va mal. Je suis pas à bonne place dans mes feuilles. Beterbiev a battu Adam Daines au 10e round. Puis, tu sais, on s'attend tellement à ce que les gars se fassent défoncer par Beterbiev que quand on voit, entre guillemets, une certaine opposition, on est surpris. Tu sais, on a trouvé que Adam Daines faisait bien les choses. Il lançait à deux mains. Il se défendait un peu. Je crois que là, il est pas pire. Mais Beterbiev a peut-être montré certaines lacunes au niveau de la défensive. Est-ce que c'est parce qu'il a tellement confiance en son menton qu'il en a un peu. Poliment, il en a un peu rien à cirer. Fait que là, il se dit oh, si moi j'avance, mon menton va tenir, puis je te frappe. T'sais, il a gagné au 10e round. Puis. La question que je me demandais, puis ça a été mal accueilli quand j'en ai parlé à mon ami Mathieu Boulay, qui a fait comme ah, arrête avec tes complots, si tu t'écoutes trop Radio-Québec. J'ai dit est-ce que Beterbiev, avec une performance correcte, est en train de se rendre accessible pour Saúl Alvarez et Jean Pascal? Puis du côté de Mathieu, qui est comme mauditement plus informé que moi, il a fait comme, mais non, t'es-tu fou, c'est sûr que c'est Joe Smith. Fait qu'à suivre, mais moi, j'ai l'impression que si je suis Jean Pascal, je sais pas, j'écoute. Puis lisez le Journal de Montréal le dimanche, j'ai pas le droit de parler, mais il va y avoir une grosse nouvelle sur l'avenir de Jean Pascal. Mais comme vous écoutez probablement demain, vous pouvez tout de suite ouvrir le journal et je vous donne un indice. Oscar Rivas est troisième catégorie de poids pour Jean Pascal. J'arrête de faire le tour des galas. Puis c'est ça, non, c'est ça. Tu sais, c'est Beterbiev, c'est bien battu, puis tout, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est un rouleau compresseur, il s'installe, puis il roule le rouleau. En sous-carte, il y avait un bon combat, là. J'en ai acheté, je me fais rire un peu parce que. Pour vrai, je suis pas capable de prononcer le nom du gars. Il s'appelle Silyagin, je pense, ou Silyagin. Un boxeur russe qui boxe chez les 168 livres. Il a complètement débattu son adversaire, Azizbek Abdoukhorov. C'est un gars, tu sais, quand on parle de coffre à outils, là, mais il les a tous, les outils. Il est aussi bon... en avançant, en reculant de gauche à droite, il est grand, il lance de la portée. Pavel Silyagin sera certainement à surveiller dans la division des 168 livres. En sous-carte, il y a Alexander Bespoutin qui était à surveiller, il avait un changement d'adversaire. Et tenez-vous bien, les résultats ne sont pas sortis sur BoxRec. Fait que. Vous allez attendre. En Colombie, il y a un gars-là qui m'a fait rire. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aime ça. Là. Je vous le dis, des fois, j'ai rien à faire. Là. Je vais sur BoxRec. Puis là, je regarde juste les résultats de ce qui s'est passé. Puis où les combats à venir. Okay? Puis il y a des cartes que je peux pas concevoir que les gens se payent des billets pour voir ça. En Colombie, il y a un boxeur qui est rendu à 45 ans qui s'appelle... Imaginez, là, tu vas voir la carte, ok? En finale, c'est Epifano Mendoza qui est rendu à 45 ans. 43 victoires, 31 défaites. Il a perdu ses 6 derniers combats. Ok? Il affrontait Lorenzo Smith, qui est un boxeur du Texas, qui est 22-13. Epifano Mendoza, il est 43-31, il a perdu ses 6 derniers combats. La demi-finale, c'est Miguel Urdaneta. Et là, écoutez bien celle-là. 0 victoire, 29 défaites. 15 défaites par... Le gars, il est 0-29. C'est la demi-finale. Il affronte Christopher McCoy, un gars du Texas. Okay? C'est un promoteur du Texas qui s'est payé une carte en Colombie. Je ne sais pas pourquoi. Puis qui a mis ses gars tout contre des tout croches. Ça m'a fait rire. Mais là, je me demande qui se paye un billet au Texas. Peut-être pas au Texas. Qui se paye un billet en Colombie pour aller voir ça? On le saura jamais. Sinon, il y avait d'autres. Il y avait d'autres bons gars-là. Tu sais. J'ai écouté ça. DAZN, là, je vous le dis, à chaque fois que DAZN présente un gala, c'est toujours... je vous dirais que c'est la top qualité à peu près à chaque fois. En Espagne, juste pour le nommer, là, il y a José Manuel López qui s'est fait battre par Brian Rose, qui est un des gars qui a battu Joachim Alcine, pour ceux qui ont de bonne mémoire. Laurent Socoli a arrêté Glowacki. Il l'avait coupé, mais c'est à cause d'une coupeur. T'sais. Il l'a coupé au sixième, en haut de l'œil, puis ben, avec un crochet de la droite, puis il l'a fini. Laurent Socoli est en train de devenir une grande vedette en Angleterre, un protégé de Anthony Joshua. En sous-carte, il y avait Vasile Ducor, qui était considéré comme un bon boxeur, qui a perdu contre Chris Bilal Smith, qui est en train de devenir un petit prospect à 200. Et Joe Cordina a trimé dur contre un Français qui s'appelait Farouk Kurbanov. S'il y a deux noms à retenir, Anthony Fowler a un talent fou chez les 154 livres et chez les 160, Bradley Ray. Un gars de 9-0, là, je l'y prends en note. Je fais « Ok, ce gars-là, il sait boxer. » Il est rendu 10-0, il a 23 ans. On y amenait des adversaires tout croche. Il a même affronté un gars qui a une victoire, 50 défaites l'année passée. Mais là, on y a amené un meilleur adversaire. Et, ben, tu sais, il a passé le test haut la main. Fait que c'était la carte qui avait lieu après-midi. La carte qui a lieu, mais je pense que c'est un... Après que j'aille fini de vous parler, là, c'est quand même un peu bizarre. Je fais la carte avant de vous parler, parce que j'avais trop hâte. C'est Virgil Ortiz contre Maurice Hooker et Annabelle Ortiz contre Senesia Estrada. Je vous le dis, Estrada me fait peur. Ça, j'ai eu l'idée de faire le podcast. Après, je vais aller écouter ça, parce que demain matin, je vais m'occuper de mon métier maintenant de parrain. Fait que je vais aller jouer au parc avec ma nouvelle famille. Okay? Fait que... C'est une idée que j'ai eue comme ça. Je vais faire le podcast samedi soir. C'est en plein milieu de la soirée, mais ce sera fait. Puis en même temps, c'est une autre dynamique de vous parler à la tombée de la nuit. Présentement, Ariane Fortin est en Corée du Sud où elle entraîne l'équipe nationale féminine. Il n'en fallait pas plus pour que Frédéric Gagnon rebondisse sur le sujet et nous présente sa fameuse chronique Symbiose et boxe sur la Corée du Sud et, par le fait même, la Corée du Nord. Deux autres professionnels de la radio, on faisait notre grande rencontre, 2 mètres de distance, on avait des masques, des gants, mais on s'est rencontrés pour parler du podcast, parler de l'avenir de ce podcast-là. Une heure après, on est confinés à demeure, mais je reçois notre expert international, Frédéric Gagnon, qui va nous parler de la Corée, laquelle des deux à suivre. Salut, ben oui. Frédéric.
Salut, Laurent. Ça va bien?
Oui, assez ben oui, bien.
Ça allait bien il y a une heure, puis j'imagine que ça n'a pas trop changé.
Ah ouais. Le fait de te voir, là, ça m'a revigoré.
C'est ça. Non, mais c'était bien plus facile de tout préparer, notre planification de prise de contrôle de l'univers du podcast.
Ben voilà, personne, quand un parc devient un bureau.
C'est ça. Oui, fait que effectivement, ben en fait, je te l'avais dit il y a 3 semaines à peu près. Là, c'est ça, la semaine passée, je me suis reposé, j'ai planifié, j'ai pu faire un peu de recherche sur d'autres pays, mais entre autres conclure sur la Corée du Sud. Puis là, on passe, c'est ça, il y a 3 semaines, on avait parlé du Japon. Puis là, on s'en va vers la Corée du Sud. En fait, les deux Corées, parce que alors que pour le Japon puis les Philippines, c'était les États-Unis qui avaient influencé, cette fois-ci, c'est le Japon qui a permis de solidifier la boxe coréenne. Je t'en parle, Laurent, parce qu'il y a deux histoires en ce moment dans les journaux qui se passent. Le premier, c'est une condamnation d'un tribunal coréen que ça vient d'arriver, et c'est pour les femmes de réconfort. Ça, en fait, pour un langage assez facile, là, c'était des esclaves sexuels dans des bordels de l'armée impériale nippone pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il y a un tribunal qui vient de les condamner à donner de l'argent à 12 familles, puis plusieurs femmes qui sont encore vivantes, qui ont servi d'esclaves sexuels. Et il y a aussi un autre dossier qui est un boycott des produits japonais, parce qu'il y a un gros conflit, évidemment, depuis l'occupation japonaise en Corée. Et là, il y a plein de compagnies qui se font boycotter en Corée, des compagnies de linge. Puis il y a même le magasin Uniqlo, ça c'est une grosse marque japonaise. Il faisait 2 millions de chiffres d'affaires par jour à Séoul jusqu'à tout récemment. Et là, il y a un mois, ça l'a fermé. Donc, c'est vraiment quelque chose, un contentieux qui n'est pas terminé. Évidemment, c'est les Coréens là, qui en veulent aux Japonais. Et moi, je trouve que ça me fait penser beaucoup à des sages paroles de SP. Je pardonne, mais j'oublie pas. T'sais?
Oh! Et, on connaît son rap québécois.
C'est ça, je me suis dit, je te ferai une petite citation. Ça, c'est un peu la prémisse parce que ça se passe actuellement. Puis on est quand même à peu près là, 80 ans plus tard de tout ça. Puis, il en parle encore, évidemment, probablement avec raison. Là, on est très loin pour juger. Mais tout ça pour dire que ça donne la prémisse à l'histoire d'aujourd'hui. Puis, c'est le début de la boxe en Corée. L'occupation japonaise a commencé en 1910. Ça a duré 35 ans. Et ils ont fait un peu la même chose que les Américains leur avaient fait 50 ans plus tôt. Ils ont décidé d'introduire le sport parce qu'évidemment, pour eux, les Coréens, c'était une sous-race, donc une nation inférieure. Et ils ont voulu les modeler, leur donner les bonnes valeurs japonaises et un esprit sain dans un corps sain. Donc, ils ont parti les gyms, ils ont subventionné, ils ont même permis là, à des Coréens d'être sur des équipes de boxe amateurs dans les universités au Japon. Donc, c'est tout ça qui a lancé la boxe là, en Corée, là, l'influence japonaise. Ça, puis aussi les YMCA. Ça, c'est un truc que j'ai appris. Là. Tu sais, je savais qu'il y avait comme un lien religieux, mais je ne savais pas à quel point.
La chanson ou le gymnase?
C'est ça. Mais la chanson vient du gymnase. Mais moi, je ne savais pas. Ils appelaient ça. C'est vraiment une philosophie, le muscular Christianity, hein, le chrétien musclé. Là, c'était vraiment comme un courant de pensée. Puis, tu sais, ça me fait penser un peu à une armée de Dieu. Là. Tu sais, tous des gars vraiment cotes qui prônent la bonne parole, mais ça a aussi beaucoup développé la boxe en Corée. Puis, comme je t'ai dit, c'est ça, il y avait dans les universités japonaises, il y avait plein de Coréens. Souvent, ils devaient changer leur nom. Mais il y en a un qui n'a pas changé son nom. C'est le premier grand professionnel coréen. C'est Joe Taekin. Et lui, justement, il n'avait pas changé son nom. Fait qu'il subissait de la discrimination. Fait qu'il a décidé d'aller combattre aux États-Unis. Puis à cette époque-là, les promoteurs allaient chercher jusqu'à 50 % des bourses des boxeurs. Donc, en tout cas, je ne pense pas que la cote est aussi grosse aujourd'hui. Là,
mais... J'espère que l'impôt ne ramassait pas 50 % comme aujourd'hui, parce qu'il ne reste plus rien.
Il ne reste plus rien, non, mais c'est ça. C'était pas super payant, tu sais, à l'époque. Mais ce gars-là, Joe Taekin, ça, j'ai découvert, il est venu se battre en 1934 à Montréal contre Carlos Baby Quintana. Alors, ouais, ben c'est ça, sûrement un grand...
Mais pour nos auditeurs plus âgés, là, ça peut être intéressant.
C'est ça. Mais c'était quelque chose, c'était tout un combat, tellement que j'ai trouvé que Montreal Gazette, puis là, c'est une traduction un peu libre, il avait dit « C'est pas gênant d'avoir un gars de même sur la carte en parlant de Joe Taekin. » Il a perdu le combat, mais il avait tellement été solide là, que c'était vraiment genre... on reconnaissait que le promoteur il avait fait une bonne job de pairing. Fait que ça, c'était les débuts. Fait que c'est des débuts pas évidents, tu sais, ça... les Coréens étaient encouragés à se battre comme boxeurs par le Japon, mais c'est que le Japon aimait plus le judo. Fait que c'est un peu genre, on vous encourage, mais c'est que nous, on ne veut pas se salir les mains.
Il voulait plus savoir Nicolas Gill que Jean-Pascal, mettons, en vacances.
Ouais, c'est ça. T'sais, il y avait encore une philosophie un peu, on est plus noble que les autres. Mais là, on se retrouve avec la guerre finie. Évidemment, en 1945, le Japon s'en va. Et là, la Corée se retrouve dans les premiers conflits là, qui vont les diviser avec ce qu'on connaît aujourd'hui, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a la guerre de 1950 à 1953. Alors, c'est sûr, ce n'est pas un bon moment pour développer la boxe. Là, les jeunes boxeurs, ce n'est pas leur priorité. En fait, c'est pas la priorité des dirigeants là, qui veulent plus les voir sur les champs de bataille que sur le ring. Donc là, ils ont un petit peu de retard, mais dès les années 1955, il commence à être parlé parmi les principaux boxeurs dans la Fédération orientale de boxe. Dans les décennies suivantes, il gagne plein de médailles aux Olympiques. Et tout ça va culminer avec les années 80, qui c'est vraiment l'âge d'or de la boxe coréenne. On disait que les Coréens étaient les boxeurs les plus combatifs au monde avec les Mexicains. Et il y a un premier, en fait, le plus grand champion coréen, Jung-Kook Chang. On va l'appeler comme ça. je pourrais vous l'épeler la prochaine fois. Mais fait que ça, c'est vraiment un gros boxeur. Mais moi, ce que je veux te parler, Laurent, c'est plutôt d'une histoire. Et c'est l'histoire de Duk Koo Kim. Duk Koo Kim, là, il s'est battu. En fait, c'est un bon boxeur coréen, un jeune boxeur. C'était pas le plus grand. Il n'allait pas devenir le plus grand, mais il s'est quand même fait offrir un championnat du monde à Las Vegas. Et c'était contre Ray Mancini.
Est-ce que tu te rappelles le surnom de Ray Mancini?
Non, non. C'est quoi?
C'est Ray Boom Boom Mancini.
Boom Boom, j'aime ça. Ouais, Boom Boom, comme Boom Boom Geoffrion. Je sais pas si tu l'as connu, Boom Boom Geoffrion.
Ou, Boom Boom Laroche. Et Pierre.
Ouais. Et Pierre un peu, ben moi, c'est Fred Caillou. C'était mon surnom quand j'étais petit. Mais, fait que c'est ça, Boom Boom Mancini, il était vraiment favori. Tu sais, ça, c'est un combat. Je sais que t'aimes ça, ces combats-là. On savait déjà sur la carte qui allait gagner. C'était connu d'avance. Mais c'était mal connaître Duk Koo Kim. Duk Koo Kim, là, il était vraiment fidèle à la philosophie coréenne, issue du Japon, ne jamais tomber. Ne jamais laisser tomber. Et il a décidé de faire un gros combat. Ça a été super serré, un combat super dur. Et rendu au 14e round, là, Mancini réussit à donner des solides coups. Koo Kim tombe au plancher, se relève, la cloche sonne et il décide d'abandonner le combat parce qu'il est amené à l'hôpital et il va mourir 4 jours plus tard. Alors, évidemment, une fin très triste pour lui. Même pour Mancini, là, son promoteur, c'était Bob Arum. Il est un gros promoteur de l'époque.
Il est encore vivant aujourd'hui. Promoteur, il a 89 ans.
Hey boy, OK.
Le promoteur de Arthur Beterbiev qui s'est battu cet après-midi.
Pour vrai? OK.
Il est encore là.
Oh, c'est une légende. Et lui, il a dit, Mancini, il n'a plus jamais été le même boxeur après. L'arbitre aussi a beaucoup regretté de ne pas avoir arrêté le combat avant. Donc, vraiment, ça a été très difficile, mais ça l'a amené un côté positif là, à la boxe, en tout cas plus sécuritaire. C'est ça qui a mené là, graduellement à la fin des 15 rounds.
Mais dans dans mes livres d'histoire, on dit que c'est aussi la fin de la boxe qui avait atteint comme un sommet de popularité en Corée, puis que ce décès-là va vraiment causer un large déclin.
Oui, tout à fait. Ouais, bon point. Ben ouais, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de monde souvent qui sont en train de se dire ouais, pourquoi ils parlent de la Corée. Là, c'est pas les plus connus en boxe, là, mais effectivement, depuis les années 80, ça est devenu beaucoup moins populaire.
Oui, j'avais une question pour toi. C'est pas un Coréen qui avait joué un tour à Roy Jones là, aux Jeux Olympiques. Je vais essayer de me rappeler de l'histoire. Je pense à Los Angeles, il y a les Américains avaient été très chauvins puis ils avaient donné toutes les décisions à leurs boxeurs. Fait que les Coréens leur ont joué un petit tour. Roy Jones, il a, comme on dit dans le jargon, il a mangé son adversaire puis s'est ramassé avec la médaille d'argent. Puis on lui a envoyé la main puis on lui a dit 84, mon ami.
Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est un autre point, je vais te parler des années 80. En Corée du Sud, à ce moment-là, tout le monde est familier que la Corée du Nord, il y a un dictateur, mais c'était la même chose en Corée du Sud à l'époque. Puis depuis 1961, puis en 1979, il y a un nouveau général qui assassine son prédécesseur, prend le pouvoir, et c'est lui qui va s'arranger pour avoir les Jeux olympiques. Parce que ça, c'est toujours bon. Quand tu as une dictature des Jeux olympiques, là, c'est bon pour montrer que ton pays, c'est le meilleur, puis surtout montrer à ta population qu'ils doivent être fiers d'être les meilleurs. T'sais.
Pas fou,
en effet. Fait que là, c'est ça. Non seulement ils réussissent à obtenir les jeux, mais ils décident de truquer le combat. Mais qu'est-ce qui est un peu drôle de tout ça, c'est que le dictateur, quelques mois avant les jeux, il a perdu le pouvoir. Donc, il a perdu un peu sa stratégie, mais comme tu dis, en représailles aux jeux de 84, ils ont quand même décidé de payer les juges. Et finalement, c'est un combat, tu sais, tout le monde le donnait gagnant. Tellement qu'ils ont fait une commission d'enquête quelques années plus tard pour savoir qu'est-ce qui était arrivé. Puisque tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il y a un Coréen qui avait donné de l'argent dans une mallette aux juges. Fait que, ça n'en dit pas beaucoup sur le commanditaire, tout ça. Et un des juges, il expliquait qu'il avait voté pour le Coréen parce qu'il pensait tellement que Roy Jones allait avoir 5 votes sur 5 que lui, il allait donner son vote pour ne pas rendre triste les Coréens. Fait que, c'est pas le gros argument. T'sais, ça me fait penser à quelqu'un qui vote pour Maxime Bernier. T'sais, il se dit, il n'y a pas de chance, mais moi, l'encourager.
Ça, c'est un peu comme au secondaire quand j'envoyais des cartes de Saint-Valentin aux filles un peu plus moches parce que je suis vraiment une bonne personne.
À peu que ça. C'est ça. Mais tu sais, ça, c'est un des juges qui a clairement été payé. Fait que, je sais pas si tu étais payé pour envoyer des cartes à ces filles-là.
Non, je faisais ça vraiment de bonté de cœur.
Ah, c'est ça. Mais tu n'es peut-être pas fait pour être un juge au niveau... Quoi que ça, c'est au niveau amateur. T'sais, au niveau professionnel, les juges moyens, au niveau amateur, d'habitude olympique, tu t'attends à un certain décorum. Donc, voilà. Fait qu'effectivement, c'est une médaille de perdu pour Roy Jones Jr.
J'avais une question pour toi. Vas-y. J'ai lu que dans le déclin de la boxe, que je ne sais pas pourquoi, mais dans la tête des Coréens, un moment donné, la boxe est devenue un sport de pauvre. T'sais, un sport qui... C'était comme pour sortir de la rue. Fait que là, à la limite que la Corée du Sud s'embourgeoisait un peu, était mieux organisé, mais là, ils se sont désintéressés de la boxe qui, eux, considéraient quasiment comme un sport de fond de ruelle.
Oui, ben, en effet, ouais, c'est l'autre argument. Il y a eu les décès. Là. Il y a quand même plusieurs. Ben, il y a des boxeurs de partout dans le monde qui sont décédés, mais Corée, il y en a quand même quelques-uns. Mais l'autre facteur, effectivement, c'était l'argent. C'est ça aussi, c'est une autre game là, peut-être là-bas. Ben, c'est ça. Non, mais c'est probablement pas les mêmes bourses qu'ici, ben, qu'ici qu'en Amérique, là, aux États-Unis surtout. Mais ouais, ça n'a pas aidé. Puis c'était, ça a tout le temps été aussi. Je ne sais pas si c'est comme pour la mort de Do Kook Kim. En Corée, ça avait été vu tout simplement comme une honte. Je rappelle que c'était une époque de dictature, là, mais c'était vraiment un échec. C'était comme ah, il est mort parce qu'il était faible. Sa famille, ça a été vraiment dur d'ailleurs. Puis là, je te parle de Corée du Sud, puis je vais y aller un peu avec la fin. Okay. Je vais te parler de la Corée du Nord, parce que c'est elle qu'on entend plus souvent parler, parce que c'est tout un spectacle, là, parfois là, un triste spectacle, mais je vais te parler du premier champion coréen du Nord.
OK.
Et ça, c'est un gars qui a quand même une bonne histoire derrière lui. Il s'appelle, en fait, il s'appelle avec un S là, parce que c'est Masamori Tokuyama. Puis là, tu es peut-être en train de me dire c'est pas très coréen comme nom. En effet, il y a aussi un nom coréen, Chang Soo-hong. Et lui, c'est un Zainichi. Ça, c'est un Coréen né au Japon. Puis ses parents, en fait, ses grands-parents étaient arrivés à l'époque du travail forcé. Tantôt, je t'ai parlé du boycott des produits japonais. Mais le boycott, c'est en réponse au travail forcé des Coréens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, c'était vraiment une famille, ça faisait 30-35 ans qu'il était au Japon. Il est grandi au Japon, mais pourtant, il est toujours resté nord-coréen. Et sur le ring, il embarquait sur l'hymne national nord-coréen. Il avait le drapeau nord-coréen. Sur ses shorts, c'est marqué « Korea is one hein? ». Une péninsule, une Corée, évidemment, sous le joug du dictateur nord-coréen. Là, c'est ça leur plan. Là. C'est pas tant de réunifier le pays. Et donc, ça a été le premier champion. Il était super populaire en Corée du Nord. Il a défendu son titre 9 fois. Il avait fini par le perdre. Il a regagné contre le même boxeur qui lui avait ravi. Donc, il a quand même eu une grosse carrière. Puis surtout, il était vraiment politisé. Mais ce que je voulais te dire, pour finir, c'est qu'en fait, en 2007, quand il a quitté la boxe, bien, il a fait défection. Fait que tant que tu es champion là-bas, ça va. Mais quand il s'est retrouvé à plus être un boxeur là, à l'avant, ben, il s'est sauvé de Corée du Nord.
Non, mais moi, je le comprends. Ça a l'air plate, la Corée du Nord, un peu. J'avais vu des documentaires. Là, c'est les gens qui mangent, le moins dans le monde. Ils ont vraiment pas accès à beaucoup de calories. Gilles Proulx, il racontait qu'il avait visité la Corée du Sud. Puis là, il avait pris comme il prenait des jumelles pour regarder en Corée du Nord. Le dictateur, il avait installé des devants, juste des devants de maison luxueuses. Il n'y avait rien en arrière, c'était des cartons comme ça. C'était pour le monde qui saignait de loin. Ils disaient, ils ont l'air bien.
Ah non, mais j'en doute pas. Il y a, je voyais, il y a 10 coupes officielles pour les hommes. 10 coupes de cheveux. Okay. T'as pas le choix d'avoir une de ces 10 coupes-là. Les femmes sont chanceuses, s'ils en ont 14.
C'était comme nous autres. C'est comme nous autres au secondaire, on avait soit la coupe champignon ou soit la coupe toupette.
Ben oui, non, mais c'est ça. Tu sais, ils se plaignent d'avoir 10 coupes, nous, on en prenait 2.
on était tout arrangé pareil.
Ah, c'est ça. Mais non, effectivement, c'est vraiment. Puis tu regarderas le documentaire d'un show belge qui s'appelle Striptease. Puis ils vont en Corée du Nord au début des années 2000. C'est vraiment drôle.
Ah, oh, mais parfait, je vais aller écouter ça. C'est vrai que tu es aussi un expert Netflix, ce sera pour un prochain podcast. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir été là et on se parle. Dans le fond, on se parle quand tu veux. Tu peux revenir dans la semaine prochaine, dans deux semaines. C'est toujours intéressant. Et les gens en redemandent du Frédéric Gagnon.
Bon, ben tant mieux. Ouais, ça me fait plaisir. C'est ça, j'ai eu le temps de préparer. L'Argentine s'en vient. Le crime organisé s'en vient. Puis l'Ukraine, je pense. Puis l'Ouzbékistan.
J'espère qu'on finira pas dans un coffre de char. Merci,
Frédéric. Non, c'est ça. Mais on parle du passé. Fait que c'est ça l'avantage. Tu sais, je parle pas trop d'aujourd'hui.
Ben voilà.
Ouais, ben, ça fait plaisir, Laurent. Puis on se voit bientôt.
Oui.
Oh mon Dieu!
Très heureux d'entendre Marie-Pierre Houle qui rit encore de ma bonne blague que j'ai fait en début de programme quand je voulais vous annoncer que je travaillais sur des petits projets en humour. Présentement, j'écoute le combat entre Senesia Estrada et Annabelle Ortiz. Tu sais, je vous avais dit que Annabelle Ortiz s'en allait à l'abattoir, mais là, présentement, c'est la guerre sur le ring. Puis je vous dis que mon amie Annabelle Ortiz est pas là pour donner la victoire à Estrada. Puis elle s'est surtout pas pointée là avec la peur dans les yeux, OK? Ouh, mon Dieu, ceux qui pensent que la boxe féminine, ça brasse pas, ça brasse en joie le vert présentement. Le prochain combat est celui de Virgil Ortiz contre Maurice Hooker, mais je vous l'annonce à l'avance, Ortiz va gagner entre le 5 et le 7e. La semaine prochaine, ça c'est un peu étrange, il y a une carte de boxe où c'est plein de gars d'MMA, tu sais, Chris Congo, désolé, va se battre contre Michael McKinson, mais Eric Molina, qu'on a connu contre... Dans le fond, il n'y a pas personne de MMA là. Je sais pas, je me suis trompé. Être moins paresseux, j'effacerai mes propos. Chris Congo va affronter Michael McKinson. Fabio Wardley, qui est un méga prospect, va affronter Eric Molina. Ted Cheeseman, qui est un des bons boxeurs d'Angleterre, va affronter James McAlf. Et en grande finale, Dillian White contre Povetkin. On se souvient du premier combat qui avait été assez brutal. Merci. Dillian White voguait vers une victoire et ça a pris un uppercut. Puis Dillian White, il dort encore aujourd'hui. Il a dormi un moyen temps. Okay? Donc, les gagnants de la semaine, c'est une nouvelle chronique. Là, je viens d'inventer ça. Les gagnants de la semaine. Lawrence O'Cauley qui rentre. Devient champion à 200 livres, fait valoir son nom. Arthur Beterbiev qui a démoli tranquillement Adam Danes qui nous a donné quand même un bon spectacle. Virgil Ortiz qui est le plus gros test de sa carrière. Au moment où vous l'écoutez, vous avez le résultat, mais pas moi. Jermall Charlot n'est pas intéressé à affronter David Benavidez, veut demeurer chez les 160. Au Québec, on a appris cette semaine que les contrats des boxeurs d'Eye of the Tiger avec Oscar De La Hoya sont tous résiliés, sauf celui d'Arslanbek Makhmoudov. On donne une dernière chance à Oscar de se faire valoir. Donc, c'est intéressant parce que les Butler, Bazinian, Lemieux et Ulysse redeviennent complètement indépendants. Camille dit, inquiétez-vous pas. De un, j'ai de l'argent. De deux, j'ai Punching Grace. Fait que ça va bien aller. On a appris que le 1er mai prochain, il allait avoir une carte entre un gala entre Greg Richard, Dimitri Bivol, Natasha Jones, ou Jonah, je suis pas sûr, contre Cathy Taylor, Chris Eubank contre Marcus Morrison, Derek Chisora contre Joseph Parker. Très, très, très intéressant. Et je vais écouter ça d'un œil plus qu'attentif. Alors, voici la conclusion. Ben, la conclusion, je viens de la faire. Le Canadien a gagné 5-4 en passant. Puis je veux vous dire, regardez bien dans les prochains mois qu'il y a des gens au Moyen-Orient qui ont vraiment l'air à triper sa boxe ou qui ont beaucoup trop d'argent de libre. Je sais que Eddie Hearn, il parle que Joshua Fury pourrait s'en aller au Moyen-Orient, puis il dit, comme le gars à qui j'ai parlé, il a juste fait, bah, je me fous du montant, là, tu mettras ce que tu veux, c'est chèque. Fait que c'est inquiétant. James Munguia devrait affronter Maciez Souleki. On attend pour Golovkin. On attend un adversaire pour Makhmoudov. Au Québec, il va falloir que notre monde se batte. Je vous le dis, on se sent revivre un peu. Merci et à la prochaine.